cette semaine, Xavier Delaporte rencontre Christophe André. Ce soir, méditation et psychologie positive.
Bonsoir Christophe André.
Bonsoir.
Troisième épisode de cette voix nue qui vous est consacrée toute cette semaine. Vous êtes psychiatre, vous officiez à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et c'est de ça principalement dont nous allons parler aujourd'hui. Mais on va parler aussi des thèmes qui affleurent dans les nombreux livres, enfin qui en sont d'ailleurs les sujets dans les nombreux livres que vous avez écrits et publiés ces 20 dernières années. Vous êtes arrivé à Sainte-Anne après avoir exercé à Toulouse pendant une quinzaine d'années. Vous nous le racontez, c'est au début des années 90 que vous arrivez à Sainte-Anne. Est-ce que tout de suite, vous vous êtes intéressé à la mise en place de pratiques qui étaient assez peu utilisées à l'époque en psychiatrie, à savoir la méditation et d'autres pratiques qu'on va un peu détailler, ou est-ce que c'était déjà là quand vous êtes arrivé?
Oh, c'était déjà là, mais de façon en demi-teinte un petit peu. C'est-à-dire quand j'arrive à Sainte-Anne en 92, d'abord on me recrute dans le service hospitalo-universitaire où je débarque, donc grâce à un ami psychiatre qui s'appelle Patrick Légeron, qui était en place depuis quelques années là, et qui faisait déjà du comportementalisme. Donc je n'ai rien inventé, je n'ai rien apporté d'original, mais j'arrivais pour développer cette façon de soigner au sein du service. À l'époque, c'était le comportementalisme. La méditation n'était pas encore, faisait pas encore partie de ma panoplie ni du paysage psychiatrique. Et donc, on s'intéressait beaucoup à l'époque avec Patrick Légeron à des patients qui étaient un petit peu délaissés par la psychiatrie, la psychothérapie traditionnelle, qui étaient les phobiques sociaux. La phobie sociale, c'est une forme de souffrance qui est une sorte de timidité maladive et extrême. C'est-à-dire, c'est pas seulement être un peu gêné quand on connaît pas les gens, quand il y a beaucoup de monde pour donner son avis, c'est l'incapacité de regarder dans les yeux, l'incapacité de prendre la parole, l'obligation de boire 4 bières pour aller chercher le courrier à votre boîte à lettres parce que votre jardin donne sous les fenêtres du voisin, vous avez peur que le voisin vous voie, la difficulté d'aller acheter une baguette de pain, l'impossibilité de passer un entretien d'embauche. Donc c'était des gens qui avaient une souffrance énorme et qui n'étaient pas bien recensés ni soignés.
Pourquoi? Parce que c'est moins spectaculaire, moins intéressant intellectuellement?
Alors, d'abord parce que ça n'avait pas été décrit par Freud, et une fois de plus, la psychiatrie a longtemps été dépendante des visions de Freud, qui étaient parfois géniales, mais parfois aussi insuffisantes. Donc Freud n'avait jamais été attentif à ça, parce que c'est la deuxième raison, mais ça explique aussi pourquoi il ne l'avait jamais décrit, parce que c'est des patients qui ne se plaignent pas, qui ont peur de venir chez le psy, qui pensent que ça ne vaut pas la peine de parler de tout ça, donc qui boivent dans leur coin, qui sont en échec social, etc. C'est des patients qui passent volontiers inaperçus. Vous savez, pendant longtemps, la psychiatrie a prêté beaucoup d'attention aux patients qui perturbaient l'ordre social. D'ailleurs, la naissance de la psychiatrie, c'est ça. Hein. Les gens qui mettaient trop la pagaille dans les rues, on les enfermait derrière des grands murs, on mettait des portes, on fermait à double tour, on mettait des médecins dedans, et ça s'appelait l'asile psychiatrique. Et donc, il fallait pas qu'on fasse du boucan sur la voie publique. Et la psychiatrie, en France, a gardé un petit peu ce réflexe. Au fond, on s'intéresse aux gens qui dérangent, qui mettent la pagaille, aux gens qui se suicident, aux anorexies, aux toxicomanes, aux gens qui délirent évidemment, mais moins aux patients qui souffrent en silence et dans leur coin. Voilà, c'est une des explications. Après, il y a des explications plus techniques, mais en gros, c'est quand même un peu ça. Et donc, à l'époque, on les soignait peu ou mal, on s'y intéressait peu. Donc, nous, c'est un peu un hasard, hein, mais il s'est trouvé qu'on a commencé à se pencher sur un certain nombre de ces patients, à mettre au point des techniques de thérapie de groupe qui, à l'époque, en France, étaient vraiment très révolutionnaire, très nouvelle, hein, qui consistait à apprendre aux patients, selon le principe de l'exposition, de l'affrontement progressif de ce qui nous fait peur, à parler devant le regard des autres. Puis après, on sortait du service, on allait chanter dans le métro, on demandait de l'argent aux gens dans la rue. Enfin, c'était en fin de thérapie, hein, tout ça.
Ah oui.
Là, je vous raconte le traitement à bride abattue. Mais en tout cas, l'esprit, c'était de leur dire, bon, toute votre vie, vous avez eu peur de regarder votre boulangère dans les yeux. Eh ben, on va y aller, là, maintenant. On va la regarder dans les yeux, et puis on va même faire les oeuvres sur le trottoir, etc., etc. Donc, ça prenait du temps, hein. C'était vraiment... Mais il y avait un petit esprit commando dans le groupe que les patients adoraient, que nous, on adorait. Alors, on était connus dans le service, parce que dans les exercices qu'on leur donnait à faire, il fallait déranger, donc ils tapaient à la porte de la bibliothèque au moment où il y avait une grande réunion de tous les médecins du service, et donc il fallait qu'ils rentrent, qu'ils demandent où était le docteur machin. Et donc nos collègues savaient quoi, qu'on faisait des trucs comme ça.
Et ça marchait ?
Ouais.
Toujours ?
Ah non, bah, vous savez, en psychiatrie, en médecine d'ailleurs, rien ne marche toujours, mais ça marchait très bien, oui, ça marche d'ailleurs toujours très bien. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est assez émouvant d'ailleurs de voir que finalement, ce travail, qui est un travail de tâcheron un petit peu, hein, ça n'a pas le souffle, l'ampleur, la poésie de la psychanalyse, où on part explorer l'inconscient, les rêves, les symboles, là... On est un peu comme des allergologues, quoi. On considère que la phobie est une réaction de peur allergique, excessive, explosive, avec un truc un peu absurde, un signal d'alarme déréglé. Et donc, très patiemment, on fait un travail de terrain où on réinjecte de toutes petites doses de peur jusqu'à ce que le patient les supporte. On passe à la dose suivante. Mais pourtant, ça se fait dans une ambiance très excitante parce qu'on voit ces gens renaître, sortir de leur isolement, de leur image très négative d'eux-mêmes. Alors, bien sûr que ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours parce que parfois, les patients n'ont pas la force de faire ce boulot. Ils sont trop épuisés par des années de dépression, d'alcoolisme. Il y a des dégâts, hein. La plupart de ces patients, s'ils sont dans la nature non soignés, ils sont quand même dans des trajectoires de vie assez dramatiques. Donc certains n'ont pas la force. Pour d'autres, pour des raisons qui nous échappent, ça ne fonctionne pas. Mais on avait quand même à peu près, les études donnaient à peu près les mêmes chiffres, 2/3 de patients pour qui c'était un soulagement considérable. Alors, ils ne devenaient pas tous représentants de commerce ou conférenciers, mais en tout cas, ils allaient suffisamment mieux pour pouvoir de nouveau négocier les prix dans un magasin, ou aller dire à leurs voisins de faire moins de bruit, ou rencontrer des amis et parler d'eux dans une soirée.
Comment vous êtes tombé sur la méditation ?
Alors la méditation, c'est un mélange de hasard, de nécessité, d'évidence. D'abord, quand mon meilleur ami est mort en 87, je suis allé me réfugier, comme on l'évoquait, dans un monastère bénédictin près de Toulouse. Et là, j'ai découvert la vie contemplative. J'ai découvert que finalement, quand on était ravagé par l'angoisse, la tristesse, le désespoir, s'agenouiller, se poser, commencer par prier, puis après laisser simplement son esprit dans une pure attitude contemplative, c'est-à-dire ne rien chercher, ne rien poursuivre comme objectif, juste être dans la présence et l'osmose avec l'environnement. J'ai découvert à quel point ça avait des effets apaisants, donc cette tradition finalement méditative et contemplative catholique. Puis j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Je suis revenu assez souvent faire des retraites au monastère, mais évidemment, je ne pouvais pas proposer ça à mes patients. Ce n'était pas un outil laïque. Hein. Je ne pouvais pas faire de prosélytisme bénédictin auprès des patients qui en avaient besoin. Puis, à la fin des années 90, j'ai commencé à voir passer dans nos revues scientifiques des articles sur la méditation thérapeutique. Il y avait des premiers papiers qui disaient que finalement, la méditation, c'était une approche assez fabuleuse pour apaiser l'esprit, pour donner du recul par rapport aux obsessions et aux inquiétudes, mais que voilà, il fallait avoir des outils laïques. Donc des Américains avaient mis au point les techniques de méditation laïque qu'on appelait mindfulness, la pleine conscience. Donc je découpais ces papiers à l'époque, on les avait pas sur internet, je les archivais, je me disais oh là là, ça c'est quand même pas mal, il faudra que tu ailles faire un tour là-bas pour te former. Et à ce moment-là, ou à peu près, c'est à ce moment-là, j'ai rencontré par hasard Mathieu Ricard. On s'est croisés sur un plateau de télévision, ça devait être en 98, 99, j'ai un peu oublié. C'était une émission qui passait sur Arte le dimanche midi, qui était coproduite, je ne sais pas comment on dit, par Psychologie Magazine. Et donc, c'était vraiment intéressant. Il y avait, moi, j'étais assez souvent invité, on abordait des tas de sujets. Puis un jour, on nous a invités avec Mathieu sur le bonheur. C'était l'époque où je devais être connu un petit peu pour à propos de mon discours, ma position sur le bonheur. Et puis on a vraiment sympathisé tout de suite avec Mathieu. On est devenus copains, on est allés boire un thé ensemble, on s'est mis à parler de tout. Et tout à coup, on s'est mis à parler de méditation. Mmh. J'ai dit, mais attendez, vous connaissez ? Il me dit, mais bien sûr, je connais bien Jon Kabat-Zinn, etc., etc. Et donc là, c'était parti. Je lui ai demandé des références aussi de textes de méditation bouddhiste, puisque c'est quand même cette méditation laïque dont je suis en train de vous parler, celle que nous avons introduite ensuite à l'hôpital Sainte-Anne. C'est une méditation qui est issue au départ du bouddhisme, même si elle a été laïcisée. Donc grâce à Mathieu, mon attirance et mon intuition ont été validées et nourries. Et donc là, j'ai commencé à plonger dans ce milieu, à me former. Je me suis formé auprès des gens qui étaient voilà, les meilleurs à mon époque pour m'apprendre les outils adaptés. Et puis, je me suis lancé dans le service. Donc en 2004, on a commencé à monter nos premiers groupes de méditation pour les patients. C'était encore assez tôt parce que ça a suscité quand même, même si ça n'a pas été si compliqué que ça, parce que dans le service, mes chefs de service savaient qu'on faisait des choses un petit peu décalées, un peu folkloriques, hein, avec nos patients, qu'on enfermait dans les toilettes, on les envoyait chanter dans le métro.
C'est vrai que faire méditer à côté de ça, c'est
ouais, pas voilà, grand chose. Faire méditer, c'était beaucoup. Mais ça faisait peur à l'époque, parce que la méditation avait encore une image. Alors pour certains, c'était un truc de secte, d'endoctrinement. Pour d'autres, c'était une espèce de machin baba cool, bon, un peu niaiseux et sans grande efficacité. Les patients aussi avaient un petit peu peur. Moi, je me souviens de plusieurs patients, quand je leur ai dit, on a des groupes de méditation actuellement, de méditation thérapeutique, nous pourrions vous y inviter. J'ai vu à leur tête qu'ils ne reviendraient pas la prochaine fois. Oui, ce qui a été le cas, parce qu'il y a eu quand même, comme ça, des scandales de sectes infiltrées à l'hôpital, des médecins qui appartenaient à des sectes, qui faisaient un peu de prosélytisme. Ils devaient avoir peur que ça soit une histoire comme ça. À un moment même, on avait arrêté de parler de méditation. On parlait d'entraînement attentionnel, ce qui n'était qu'un demi-mensonge. On disait, voilà, on a des groupes d'entraînement attentionnel qui consistent à apprendre à poser son attention sur le souffle pour justement qu'elle ne soit pas captée par les obsessions, par les angoisses, etc.
Donc c'est ça l'intérêt thérapeutique, c'est un détournement en fait
Oh, c'est plus compliqué que ça, c'est plus subtil que ça, mais il y a cet élément, effectivement. L'intérêt thérapeutique de la méditation, il opère par des mécanismes extrêmement nombreux, mais effectivement, il y a dans ces mécanismes quelque chose qui est de l'ordre de l'entraînement attentionnel. C'est-à-dire, on voit bien que parmi les sources de souffrance qui existent chez nos patients, il y a le fait que l'esprit s'évade vers l'avenir, en le dramatisant en général, c'est l'angoisse, ou vers le passé, en ruminant, en regrettant, en se culpabilisant. Bon. Alors, c'est très bien que nos cerveaux sachent s'évader, partir vers l'avenir, revenir vers le passé, c'est plutôt une chance au départ. Sauf que, si c'est pour ruminer ses angoisses sans que ça n'apporte aucun soulagement ni aucune solution, ou ruminer son passé, là on est dans des dérapages quoi, de ces fonctionnements cérébraux qui sont des chances au départ. Et dans la méditation, on apprend au patient à porter son attention sur l'instant présent et à ne pas être sans arrêt dans le futur ou dans le passé. Et donc, porter son attention sur l'instant présent, le meilleur moyen pour démarrer, c'est de porter attention au corps. Le corps, il est toujours dans le présent. Le corps, il vit pas dans l'avenir, il vit pas dans le passé. Il vit l'instant présent, donc on se centre sur son souffle, sur ses sensations corporelles, on écoute attentivement ce qu'il y a autour de nous, éventuellement on le regarde, c'est-à-dire on revient dans le présent, là où beaucoup de nos souffrances viennent du fait que nous sommes aspirés dans le virtuel. Le virtuel de nos scénarios catastrophes, de nos projections inquiètes, de nos culpabilités. Et là, on revient dans le réel. Donc c'est un des mécanismes. Après, il y en a d'autres. Il y a aussi le fait que lorsque vous méditez, ça vous aide à modifier un petit peu la vision que vous avez de vous-même. C'est-à-dire ça vous donne du recul par rapport à ce qui vous apparaissait être des certitudes, des évidences. Au bout d'un moment, vous apercevez que c'est contestable, c'est pas si évident justement que vous ne vous en sortirez pas, que vous avez fait le mal, que ceci, que cela. Donc tous ces mécanismes de la méditation sont explorés. On cherche à comprendre pourquoi ça marche. Il y a aussi un mécanisme sur l'équilibre émotionnel. On s'aperçoit que les personnes à qui on a appris à méditer sont beaucoup plus présents à leur vie. Et donc lorsqu'il se passe des choses agréables, touchantes ou émouvantes, lorsqu'ils voient un beau coin de ciel bleu, lorsqu'ils boivent un bon verre de vin, etc., ils le savourent beaucoup mieux, ça leur procure beaucoup plus de bonheur. Et donc, on montre que les gens qui méditent régulièrement, nos patients qui méditent régulièrement, ressentent beaucoup plus progressivement d'émotions positives, de petites émotions positives par rapport à des petites circonstances de vie à côté desquelles ils seraient passés sans les savourer s'ils n'avaient pas appris à méditer.
Pourquoi ça passe par le souffle ?
Toutes les techniques méditatives ont un passage obligé, en général en début d'apprentissage, mais aussi pratiquement au début de chaque exercice méditatif, par le souffle. Alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est une raison liée à l'attention. Pour poser notre attention, c'est beaucoup plus facile de la poser sur ce qu'on appelle une cible mouvante qu'une cible immobile. Si vous voulez méditer en regardant un pan de mur blanc, comme on le fait dans le Zen Soto, eh bien, très rapidement, votre attention va s'ennuyer. Vous aurez du mal à garder votre attention posée sur un empan de réalité où il ne se passe rien. Par contre, si ça bouge, si ça change, comme si on vous met devant une télé, vous allez pouvoir rester attentif devant votre télé beaucoup plus longtemps que devant votre mur blanc. C'est pour ça aussi que la plupart des humains rentrent en état méditatif devant un feu de cheminée, devant les vagues de la mer, parce que ce sont des cibles mouvantes, ça bouge, et ça bouge calmement, ça bouge lentement, donc ça capte notre attention et ça apaise nos émotions. Si vous voulez méditer sans allumer de feu de cheminée, sans aller au bord de la mer et surtout sans allumer la télé, eh bien vous avez une autre option en matière de cibles mouvantes, c'est votre souffle. Le souffle, il est toujours là, mais il n'est jamais exactement le même. Inspiration, expiration, et puis chaque inspiration est différente de la précédente et de la suivante. Et donc, on commence toujours par se centrer sur le souffle, non pas de façon conceptuelle, par réfléchir à mon souffle, le souffle, la vie, mon Dieu créateur qui a soufflé dans un bloc d'argile. Simplement, ressens le passage de ton souffle, sens l'air frais qui entre, l'air tiède qui sort, regarde comme ta poitrine, ton ventre, tes épaules s'élèvent et s'abaissent, regarde comme ton corps fait le boulot tout seul, tranquille, t'as pas besoin d'intervenir, c'est pas un exercice de contrôle respiratoire. Donc c'est pour ça que le souffle, c'est vraiment la porte d'entrée dans les pratiques méditatives.
Alors, autre aspect de votre travail, c'est ce que on appelle la psychologie positive. D'abord, qu'est-ce que c'est que la psychologie positive? Et est-ce que ça signifierait qu'il y a une psychologie négative?
Ouais, c'est l'inconvénient, hein, ce terme, psychologie positive, ça a deux inconvénients. Le premier, c'est que ça, comme vous le dites, semble suggérer que tout ce qu'il y avait avant, tout ce qui est différent, c'est négatif. Mais c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que pendant longtemps, la psychologie, ou du moins la psychothérapie, s'intéressait à ce qui allait mal. C'est-à-dire qu'on se tournait vers nos patients en essayant de voir ce qui n'allait pas chez eux, se demander pourquoi ils étaient déprimés ou comment les aider à être moins anxieux. Et puis, si on y était arrivé, eh bien, on en restait là. Mais on ne se posait pas la question de se dire, mais finalement, bon, ils sont un peu moins anxieux, ils ne sont plus déprimés, mais là, je les ai juste aidés à moins souffrir. Est-ce que je ne pourrais pas aller un peu au-delà et les aider à mieux profiter de la vie, à être plus heureux? C'est-à-dire, est-ce que je ne pourrais pas aussi faire le boulot en me disant, mais et finalement, est-ce que ces gens savent se rendre heureux? Est-ce qu'ils savent savourer leur existence? Parce que c'est peut-être bien ça aussi qui les a précipités dans la dépression, qui a fait qu'ils n'ont pas réussi à résister à leur divorce ou à cette période de chômage. Parce que il y a des gens qui ne dépriment pas après un divorce, il y a des gens qui résistent au chômage. Et peut-être que finalement ces gens-là sont aussi des gens qui ont des tas de ressources psychologiques, ils savent tirer le meilleur de leurs relations amicales, de leur balade dans la nature, de leur lecture, etc. Et l'idée de la psychologie positive, c'est ça, c'est se dire, nous devons aussi nous intéresser non pas seulement à la réduction de la souffrance, mais à la promotion des ressources des patients, les aider à avoir plus confiance en eux, à avoir de meilleures relations avec les autres, à mieux savourer les petits instants de bonheur que la vie leur propose. Donc cette dimension-là, au fond, fait qu'on peut comprendre la psychologie positive non pas comme l'opposé d'une psychologie qui serait une psychologie négative, mais comme une sorte de complément et peut-être même comme une sorte de prolongement. En tout cas, dans ma tête, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que, en vieillissant, en tant que thérapeute, en devenant un vieux thérapeute, avec les années d'expérience, hein, et bien sûr, j'ai continué. Moi, j'aime beaucoup avoir des nouvelles de mes patients. Je demande toujours à mes patients, même quand nous terminons la thérapie, de me donner de leurs nouvelles. Et donc, ben, dans ces nouvelles, il y en avait des bonnes et des moins bonnes. Il y avait un certain nombre de patients qui rechutaient, comme dans toutes les thérapies. Ce n'est pas que le boulot que nous faisions était de moindre qualité que ce que faisaient les autres écoles psychothérapiques. C'est que il y a des troubles, notamment les troubles anxieux, les maladies de l'angoisse et de la dépression, dont la vocation est de rechuter. Et en psychiatrie, pendant longtemps, nous avons commis l'erreur de trop croire que nos patients que nous avions sortis, par exemple, de la dépression, étaient guéris après avoir été remis sur pied à la suite de l'accès dépressif. Et moi, je me souviens très bien, quand j'étais interne, on disait aux patients, le patient avait traversé l'enfer de la dépression, puis on avait réussi à le guérir par antidépresseurs, thérapie, électrochocs, parfois pour les dépressions les plus graves. Et évidemment, ils disaient, mais est-ce que ça peut revenir? Et on leur disait ce truc qui me paraît incroyable aujourd'hui, on disait, non, n'y pensez pas. Remettez-vous à vivre, oubliez tout ça, c'est passé. Ben non, c'est pas du tout passé. Et les statistiques, quand on a commencé à faire des études de suivi sur les patients qui avaient fait des dépressions sévères, on s'est aperçu qu'il y en avait un paquet, malheureusement, si on ne les avait pas laissés assez longtemps sous antidépresseurs, si on ne les avait pas correctement traités assez longtemps par psychothérapie, qui rechutaient. Et donc, on a commencé à se poser la question, de se dire, mais comment on pourrait les empêcher de rechuter? C'est dans ce cadre qu'effectivement, je me suis intéressé à la psychologie positive, à l'estime de soi, puis à la méditation, dans le cadre d'outils, non pas de soins pour régler des problèmes, mais de renforcement de la personne, pour les aider à être plus stables émotionnellement, à mieux profiter de l'existence, parce que je pense, d'ailleurs les études vont dans ce sens, que finalement, le bonheur, c'est un carburant indispensable pour affronter l'adversité. Que si vous n'avez pas la capacité de savourer les moments de votre vie où elle est savoureuse, ça n'est pas toujours le cas, mais il y a quand même des tas de petits moments qui sont des moments de bonheur potentiel. Si je n'ai pas cette capacité, je n'aurai pas l'énergie pour affronter correctement les moments où la vie sera hostile, douloureuse, problématique. De toute façon, c'est quasiment ce qu'on voit chez les patients déprimés. Les patients déprimés ont un symptôme qui s'appelle l'anhédonie, l'incapacité de ressentir du plaisir ou du bonheur. Et on voit très bien que ce symptôme, cette incapacité de remplir leur carburant, leur réservoir de ce carburant fabuleux qu'est le bonheur, les rend incapables d'affronter l'adversité. Ils s'effondrent pour des tout petits trucs, et puis au bout d'un moment, ils n'ont plus envie de vivre.
Vous avez consacré des livres à cette question, mais c'est quoi le bonheur, selon vous ?
Le bonheur, c'est un sentiment. C'est un sentiment qu'à l'instant que je suis en train de vivre, j'ai l'essentiel de ce qu'il me faut. Ça rejoint ce qu'en disaient les philosophes de l'Antiquité, hein. C'est un état de complète satisfaction de mes besoins. Alors, de complète satisfaction transitoire, évidemment. Le fait de me sentir heureux à cet instant, ne préjugeant rien de ce qui m'est arrivé auparavant et de ce qui m'arrivera ensuite. Mais c'est ce qu'on dit à nos patients. On leur dit, quoi qu'il vous soit arrivé avant, quoi qu'il vous soit arrivé après, est-ce que cet instant n'est pas quand même un instant heureux ? Voilà, cet instant passé avec un ami, ce petit moment tranquille sur un banc au soleil, on vous fout la paix, personne ne vous embête. Ce sont des petits moments de bonheur, même si avant ou après, il y a eu des tourments et il y aura des tracas.
Quelle place a la plainte dans tout ça?
La place de la plainte, Dans nos vies, elle est importante.
Mais... Justement, c'est pour ça que je vous pose la question.
Ah, je suis embêté pour vous répondre parce que je suis un grand plaintif de façon assez... Oui, spontanément, dans ma vie privée, je me plains pas.
À part dire que vous êtes inapte au bonheur, vous plaignez pas beaucoup
non,
avec nous en tout cas.
Oui, parce que je vous connais pas bien, donc je ne me lâche pas beaucoup. Mais mon épouse qui me fait remarquer volontiers mes défauts, c'est super d'ailleurs, c'est à ça que servent les conjoints, à nous faire progresser. Me remonte les bretelles chaque fois que j'ai tendance à me plaindre, et elle a raison, parce que la plainte, c'est évidemment un aveu d'impuissance, quoi. Si se plaindre, c'est ajouter ajouter du malheur au malheur, quoi. Si nous parlons de la plainte prolongée, plaindre, dire juste aïe, tu marches sur le pied, j'ai mal, tout va bien, ou informer quelqu'un, un ami qu'on retrouve pour boire une bière avec lui, qu'on est un peu malheureux en ce moment, qu'on a des soucis, c'est pas ça la plainte. Enfin, en tout cas, ce sont des plaintes recevables, acceptables. La plainte pathologique, celle que nous avons tendance à réitérer, à nous administrer à nous-mêmes, parce qu'il y a la plainte qu'on exprime à nos interlocuteurs, qui au bout d'un moment leur cassent un peu les pieds quand même. On met beaucoup nos patients en garde par rapport à ça, on leur dit attention, si la plainte débouche sur une possibilité d'aide ou de réconfort pour l'autre, c'est bien, mais si vous lui réassénez régulièrement qu'il est impuissant à vous aider, là, il va finir par en avoir marre. Hein. Mais donc, j'ai perdu le fil de ce que je vous disais sur cette plainte.
Il fallait statuer, je vous demandais de statuer sur la plainte.
Ouais. Et il y a des plaintes donc qui sont des plaintes pathologiques parce que, oui, c'est ça, nous y adhérons intérieurement, nous nous plaignons à nous-mêmes. Et même si on ne dit rien aux autres, on est toujours en train de se dire « punaise, non, c'est trop dur, j'y arriverai pas, c'est vraiment, j'ai pas de chance ». Et on s'auto-intoxique. Vous savez, on aime bien rigoler en France de la méthode Coué. Donc c'est un peu bêta-sou, voilà, se répéter tous les matins, à tout point de vue, dans tous les domaines, je vais de mieux en mieux. Bon, mais d'abord, c'est pas si idiot. Je crois que Coué, à son époque, a eu une intuition assez bonne, qui était que le discours intérieur que nous nous assénons en boucle de manière répétitive influence quand même nos émotions et notre vision du monde. Alors ça, c'est limite. On ne peut pas prétendre faire toute une thérapie basée sur la modification du discours intérieur. La première de ces limites, c'est qu'il faut y croire. Si je ne crois pas à ce que je me dis, si j'essaie de me répéter que je suis génial alors que je pense que je suis minable, ça ne marchera pas. Mais par contre, c'est quand même pas si bête comme intuition. Et je pense qu'il avait très très bien vu. Et en tout cas...
Ça marche sur vous ?
Je vais vous dire ça tout à l'heure, mais je voudrais finir. Je veux dire qu'en tout cas, ça marche malheureusement très bien avec les pensées négatives. À force de me répéter des trucs négatifs sur moi, je m'intoxique, je me fais du mal, je me rabaisse, je m'attriste, etc. Et bien sûr que ça marche sur moi. Je suis un être humain, je suis exactement semblable à mes patients, exactement semblable à eux. Donc, ce qui leur fait du mal me fait du mal, ce qui leur fait du bien me fait du bien, et ça marche pareil pour votre cerveau.
Non, je
pense.
Je n'y crois pas. Merci beaucoup, Christophe André. C'est justement de vos patients dont on va parler demain pour le 4e épisode de cette Avenue. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Xavier Delaporte avec Christophe André. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yann Fressy, réalisation Assia Khalid, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.